France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
La Corse et son assemblée sont en train en ce moment même de se prononcer sur ce qu'on appelle des écritures constitutionnelles issues d'un accord trouvé à Paris ce mois-ci et qui feront peut-être entrer l'île dans la reconnaissance d'un statut d'autonomie. Textuellement, ce que discutent les élus, je vous le lis tel quel, c'est la reconnaissance d'un statut d'autonomie pour la Corse au sein de la République qui tient compte de ses intérêts propres liés à son insularité méditerranéenne, à la communauté linguistique, historique, culturelle ayant développé un lien singulier à sa terre. Fermez les guillemets. Nous entrerons évidemment dans le détail. Pour les points les plus importants, il y a la reconnaissance que la collectivité de Corse a une place singulière dans la Constitution. Il y a une habilitation générale pour que la Corse adapte à sa situation des textes législatifs et réglementaires. Donc pour faire simple, des domaines dans lesquels la Corse pourra fixer ses propres règles normatives. Il y a une compétence législative et réglementaire, donc on parle de pouvoir législatif, même si cette formule ne figure pas dans le texte. Et nous verrons ce que ça veut dire parce que c'est le point le plus discuté et qui suscite de vives oppositions. Les lignes rouges, en tout cas celles du gouvernement, n'ont pas été dépassées. C'était l'idée qu'il n'y a pas de peuple corse, mais une communauté culturelle, pas de statut de résident, pas de co-officialité de la langue. Il restera quand même à discuter un certain nombre de choses, on verra ce qui peut revenir par la fenêtre et jusqu'à quel point, en tout cas, le champ des possibles est peut-être ouvert. On y viendra à ce qui doit se passer après une approbation par les Corses et puis un passage devant les chambres à Paris qui ne se fera pas sans mal. Une Corse autonome, en tout cas pour certains, c'est déjà un grand pas en avant. Nous allons le décrypter ensemble, c'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Claude, soyez le bienvenu, vous êtes à Grasse.
Bonsoir.
Oui, alors, on vous
bonsoir
écoute, Claude.
À tout le monde. Je me permets un peu d'humour étant donné mon grand âge.
Je vous en prie.
Je pense que la Corse veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec. Ils demandent l'autonomie, mais pas l'indépendance qui leur ferait perdre les subventions et les privilèges. Par contre, je leur pardonne parce que les chants polyphoniques de Corse sont quelque chose qui va très bien avec leur paysage. Voilà, bonne émission à tous.
Merci beaucoup Claude. Donc à la fois vous avez fâché et réconcilié les Corses dans la même question. Moi je dis bravo, c'est une très belle entrée en matière. Merci beaucoup pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a Vanda Mastor qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes constitutionnaliste, vous êtes professeur agrégé de droit public à l'Université de Toulouse, en délégation à l'Université de Corse. Vous êtes l'auteur notamment d'un rapport sur l'évolution institutionnelle de la Corse, justement. André Fazi est là également. Bonsoir, monsieur Fazi.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Corse. Et il y a Jean-Félix Acquaviva avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député Lyotte de Haute-Corse en ce moment, donc dans la salle. Vous nous raconterez d'ailleurs justement comment ça se passe. Un mot, Vanda Mastor, peut-être sur ce qu'on vient d'entendre et sur ce que nous dit Claude et qu'on entend beaucoup de ce côté-là, en tout cas vers le continent, qui dit autonomie, d'accord, mais tout en gardant quand même les aides financières et tout le reste. Qu'est-ce qu'on répond à ça du côté des Corses?
D'abord, je la remercie d'avoir rendu hommage aux polyphonies. C'était très, très, très agréable. Ça prouve une méconnaissance de la différence entre l'autonomie et l'indépendance, si vous voulez. Et c'est d'ailleurs assez amusant comme entrée en matière, puisque globalement, la critique que l'on reçoit plutôt en ce moment, c'est vous demandez l'autonomie, vous avancez masqué, parce qu'en réalité, derrière, vous voulez l'indépendance. Donc, précisément.
Ce sera l'étape 2.
Contraire. Voilà. Mais l'autonomie, c'est pas du tout vouloir être quitter la République en bénéficiant de la crème, du beurre et la crémière, bon, pour reprendre le désordre, le dicton populaire. C'est pas ça. C'est un mode de gouvernance. Ce n'est pas non plus qu'une idéologie. Et c'est surtout pas ça. L'autonomie, précisément, c'est juste un mode de gouvernance pour que les élus corses soient plus dans la capacité, en fait, d'utiliser des pouvoirs juridiques qui correspondraient d'ailleurs à leur singularité institutionnelle qui existe déjà depuis longtemps.
Alors justement,
donc c'est rester dans la République, mais pas pour l'alléger aussi, cette République, quelque part, parce que je pense qu'on a tous à gagner au fait qu'un territoire puisse être mieux administré de plus près, en réalité.
On va rentrer dans ce détail, on va surtout donner des explications, effectivement, pour pas que les gens s'imaginent un peu tout et son contraire. André Fazi, d'un mot, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est cette utilisation du mot « autonomie, mais on a l'impression au fond que c'est plutôt une autonomie à la Corse qui est en train de se discuter, parce qu'on est loin de toute façon de ce que prévoit même la Constitution en termes d'autonomie. Ou est-ce que je me trompe ?
Ah, effectivement, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, la Constitution française, depuis 2003, inclut déjà une définition de l'autonomie qui est réservée à certaines collectivités d'outre-mer et qui ouvre des possibilités infiniment plus larges que celles qu'a ouvertes M. Darmanin l'autre soir à la place Beauvau.
Donc ça veut dire pour vous qu'on n'a pas été assez loin encore, ou qu'on est en train effectivement de construire quelque chose de complètement à part? Donc vraiment une autonomie dans la République, ça veut dire aussi un système à la Corse et presque à la carte en fait?
Alors pas assez loin, ce n'est pas moi de le dire, c'est aux acteurs politiques. Et on sait que les contraintes sont nombreuses, qu'il y a une majorité sénatoriale qui pourrait tout à fait bloquer le texte, quel qu'il soit demain. Donc moi, d'un point de vue théorique, le fait que la collectivité de Corse peut être habilitée à fixer les normes, peut être habilitée, c'est pas ce que d'habitude je qualifie d'autonomie. On peut l'appeler comme on veut, on peut aussi dire que la Corse est indépendante, mais ne l'est pas. Moi, ce n'est pas ce que je qualifie d'habitude d'autonomie.
Mais c'est quoi du coup? Je voudrais comprendre ce que vous êtes en train de nous expliquer.
Ce que je voulais dire, c'est que l'autonomie, selon moi, suppose une capacité à intervenir en étant uniquement sous le contrôle des juridictions. Ce qui ne serait pas le cas ici, être habilité, ça suppose qu'il y ait une autorité habilitatrice, et cette autorité, ça ne peut être que le Parlement ou le gouvernement.
D'accord. Ce que ça veut dire, pour que les gens comprennent bien, c'est que là, en l'occurrence, si c'était adopté, et s'il y avait notamment cette habilitation à avoir un certain nombre de normes qui sont propres à l'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, il faudrait de toute façon un aller-retour par Paris avant de revenir en Corse pour savoir si oui ou non on autorise la Corse à?
A priori, oui. D'accord. Une loi organique. Ça ne peut pas contredire la Constitution. Ça a pour sens de la développer, ça a pour but de la développer, pas de la contredire. Une habilitation, ce n'est pas une délégation qui n'est pas un transfert. Une délégation, c'est un maire qui délègue une compétence, par exemple, à un de ses adjoints. D'accord. Ce n'est même pas ça.
Jean-Félix Acquaviva, vous qui êtes député Liotte de Haute-Corse et qui êtes dans les discussions en ce moment, donnez-nous d'abord une idée de la teneur de ces discussions en ce moment à l'Assemblée Corse.
Et l'Assemblée de Corse semble s'acheminer vers un vote qui serait sur l'écriture, en la divisant en trois blocs. Le bloc que vous avez rappelé sur les premières phrases d'un statut d'autonomie au sein de la République au nom d'une communauté historique, linguistique et culturelle qui a développé un lien singulier avec sa terre. Premier vote. Un deuxième vote sur les pouvoirs. Donc le pouvoir d'adaptation par habilitation et le pouvoir législatif et réglementaire par habilitation. Et puis le troisième bloc sur le fait référendaire que les Corses doivent être consultés avant la loi organique. Donc sur ces trois votes séparés, mais sur la même écriture, il est évident que l'Assemblée de Corse risque ce soir de donner un signe démocratique très fort, puisque je souhaite à toutes les assemblées délibérantes d'avoir des votes qui seront, comme ceux de ce soir, soit à l'unanimité. Ce sera le cas certainement du premier bloc et du dernier bloc de l'écriture, c'est-à-dire sur le fait qu'on se reconnaisse comme communauté avec un bien singulier à la terre, l'unanimité donc des forces politiques présentes, pas que nationalistes, droite comprise, et évidemment un vote à forte majorité, certainement 85%, 80-85% de l'hémicycle, pour le pouvoir normatif par habilitation. Donc ce sera un fait démocratique incontestable, renouvelé.
Ce que ça veut dire, Jean-Félix Acquaviva, pour que je comprenne bien, c'est que vous allez voter 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a ensuite un vote global, ou est-ce qu'on décide de ne pas faire le vote global? La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que notamment le chapitre sur les pouvoirs législatifs était très discuté, était en tout cas le plus discuté. Donc vous allez faire 1, 2, 3, 4, c'est ça l'idée? Il n'y a pas de vote global?
Il n'y a pas de vote global. D'accord. Et sur le bloc en question dont vous parlez, englobera et le pouvoir d'adaptation et le pouvoir législatif par habilitation, il y aura certainement une majorité qui ira bien au-delà quand même de la majorité nationaliste actuelle. Donc un fait majoritaire incontestable.
Est-ce que vous pouvez, pour les gens qui nous écoutent, et je repense à notre auditrice à l'instant, nous allons évidemment retourner au standard dans un instant, mais ce que vous mettez, vous en Corse, derrière cette reconnaissance d'un statut d'autonomie au sein de la République, les intérêts propres liés à votre insularité méditerranéenne, à la communauté linguistique, historique et culturelle, qu'est-ce que vous y mettez, vous Jean-Félix Acquaviva?
Ces discussions va se poursuivre dans la loi organique, parce que ce que vient d'évoquer André Faz est tout à fait juste. Que lorsque l'on dit que les choses, elles sont directes, non, elles ne sont pas directes. C'était fait l'objet d'un compromis politique avec le gouvernement. Et le Parlement aura, avec nous, on l'espère, élu de la Corse, mais pour le coup je serai aussi au Parlement en tant que député, aura à définir dans un dialogue qu'on espère fécond les marges de manœuvre de cette autonomie. Donc quand j'ai entendu par exemple Gérard Larcher dire que le Parlement sera contourné, c'est tout à fait faux. Le Parlement sera totalement associé aux conditions et aux matières. Parmi les matières, par exemple, si je prends l'exemple de la question prégnante du prix du carburant qui est de 15 centimes plus élevé de manière structurelle par rapport au continent français, où donc chaque Corse qui va travailler ou chaque entreprise qui prend prend son véhicule a un différentiel de prix important à cause d'une structure oligopolistique, voire monopolistique du stockage et de la distribution liée à l'insularité. Bien, il faut une capacité directe à réguler les prix du carburant, parce que malheureusement nous avons un écart structurel qui est crise ou pas, et ça pèse sur le pouvoir d'achat et la compétitivité des entreprises, mais aussi à adapter la fiscalité au surcoût réel de l'insularité d'acheminement du carburant. Donc je prends cet exemple concret de vie quotidienne. Le deuxième élément que je pourrais évoquer, c'est la spéculation foncière immobilière. On dit qu'il se passe en Corse la même chose qu'au Pays Basque, en Bretagne, sur la croissance des résidences secondaires. C'est pour partie vrai et pour partie faux. Pourquoi partie faux ? Puisque le prix de l'immobilier va deux fois plus rapide en croissance que la moyenne des régions françaises. Et comme l'île Montagne est forcément rare en foncier le constructible, nous avons une faiblesse de l'offre, un prix d'immobilier qui, en cause de l'attractivité externe, croît deux fois plus vite que sur le continent, et donc il y a un phénomène de dépossession qui est plus intense,
mais pour autant,
et qui demande des outils fiscaux,
et là-dessus,
des
justement,
outils fiscaux directs.
Voilà, et là-dessus justement, puisque ça fait partie des points qui sont un peu des points d'achoppement, et notamment avec le continent, il y avait un certain nombre de lignes rouges que j'ai rappelées, notamment sur le statut de résident. Est-ce que ça veut dire, Jean-Félix Acquaviva, que dans les discussions, en plus, ce sont des choses qui vont pouvoir être remises sur le tapis et rediscutées, et peut-être, là pour le coup, définies aux quatre coins?
Le lien singulier à la terre de la communauté permettra dans la loi organique, dans le débat avec le Parlement, donc, des forces politiques corse et Parlement, de resituer ce qu'on entendrait par un statut de résident ou un statut de résidence.
Exactement.
Puisque c'était le terme de Gérald Darmanin.
Voilà,
c'est-à-dire un droit de préemption potentiel des individus uniquement sur le foncier et l'immobilier, sur toute ou partie de la Corse, à définir dans la loi organique. Parce que, je vais être très clair, la rupture d'égalité du droit au logement en Corse est telle que s'il n'y a pas une mesure proportionnée pour resituer l'égalité d'accès et à la location et à l'accession à la propriété, c'est un phénomène de dépossession massif. Je rappelle quand même qu'il y a 36% de résidences secondaires en Corse, alors que la moyenne régionale française est à 9%.
Ouais.
Je rappelle qu'il y a des communes où il y a 80-85% de résidences secondaires avec des villas qui se vendent entre 1 million d'euros à 20 millions d'euros.
J'entends,
et l'infirmière et l'instituteur du village ne peuvent plus ni louer
absolument.
Ni acheter.
Et au même temps, monsieur Acquaviva, si vous
êtes... se poser concrètement.
Et si vous habitiez à Saint-Malo, les gens de Saint-Malo vous diraient exactement la même chose et diraient qu'ils n'arrivent pas à se loger également et pour des raisons qui sont également des questions similaires. Moi, je voudrais qu'on revienne à la Constitution et au concret de ce qu'il y a à l'intérieur, si vous le voulez bien. On viendra vers vous, monsieur Acquaviva. Je sais que vous devez retourner à l'Assemblée de Corse parce que vous devez vous y exprimer et on n'oublie pas l'heure. Vanda Mastor, moi, pour les gens qui nous écoutent, moi, je voudrais comprendre ces choses qui sont considérées comme des lignes rouges, donc statut de résidence, co-officialité de la langue ou pas. Est-ce que c'est des choses que là, pour l'instant, on ne définit pas, mais qui vont revenir par la fenêtre et auxquels il faudra mettre une définition claire et précise?
Bien sûr. Alors, je me permets juste, parce que le député n'a pas pu vous répondre, les habitants de Saint-Malo n'ont quand même pas élu à 68% un parti qui a mis au cœur de sa campagne cette problématique.
Et
c'est
alors,
quand même un argument démocratique qui
absolument.
Fait la grande différence,
et outre
les chiffres qu'il a cités.
Et on y viendra peut-être, voilà. Vous avez raison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent la question de savoir si on commence avec la Corse, pourquoi pas la Bretagne, le Pays Basque, etc. En effet, vous êtes les seuls en Corse à avoir une assemblée de Corse qui, clairement, a mis 70% de son assemblée au pouvoir autonomiste, en tout cas. Vous avez raison de le rappeler.
Juste une petite précision. Ensuite, sur ce que vous évoquez très, très justement, ce sont effectivement des sujets qui déjà, dans un premier temps, n'étaient pas considérés par le ministre de l'Intérieur comme des sujets chiffon rouge, aux lignes rouges, vous voyez. Ils le sont un peu redevenus au cours des discussions, ce qui est assez finalement malheureux. Il est évident que tout ça, comme l'a expliqué tout à l'heure André Fadi, va être maintenant dans la balle, vraiment, pour que vos auditeurs comprennent bien, du camp des parlementaires. C'est la raison par laquelle il faut aussi arrêter d'avoir peur de dire que le Parlement est dépossédé, c'est l'expression du président du Sénat lui-même, ou que l'habilitation va être trop générale, trop absolue. De toute façon, qu'on ait un vrai pouvoir législatif, comme la plupart des îles autonomes en Europe, ou qu'on ait un pouvoir d'habilitation à agir dans certains domaines, dans les deux cas, dans tous les cas, en amont, c'est le Parlement qui le décide. C'est le Parlement qui va le décider maintenant en votant une loi constitutionnelle, qui est une loi qui révise la Constitution. C'est le Parlement qui va le décider ensuite en votant une loi organique, une loi qui complète la Constitution. Et évidemment, tous ces sujets sur lesquels se sont prononcés les Corses, sur lesquels ils vont encore se prononcer demain dans le cadre d'un référendum, ce sont ceux-là qui les intéressent réellement. Parce que vous savez, la différence entre pouvoir législatif, habilitation, nous, ça nous plaît, nous sommes des universitaires, des scientifiques, nous travaillons sur ces thèmes, mais le citoyen lambda de Corse, il veut, c'est acheter chez lui, dans son village, comme vient de le rappeler le député Acquaviva. Donc vous avez tout à fait raison, tous ces sujets qui étaient peut-être des lignes rouges au niveau de la sanctuarisation dans un article constitutionnel vont revenir, comme vous l'avez dit vous-même, par la fenêtre de la loi organique. Mais c'est évident qu'il faudra en débattre, et c'est évident que le nerf de la guerre va se trouver dans la loi organique.
Claude, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir, mesdames, messieurs. Oui, depuis des décennies, on cite l'exemple de l'Italie en matière d'autonomie régionale. Italie, où des provinces jouent une parfaite autonomie, y compris linguistique d'ailleurs, sans que cela nuise à l'unité nationale. Il y a ainsi le Val d'Aoste, assez francophone, et surtout le Tyrol du Sud, largement germanophone, puisque l'allemand y est la même langue officielle. Pourquoi ne peut-on pas prendre exemple sur l'Italie alors qu'on cite son exemple depuis des décennies ?
Est-ce que, merci beaucoup pour votre question, Claude, Jean-Félix Acquaviva, avant que je ne vous lâche pour retourner, que vous retourniez parler devant vos collègues, est-ce que l'exemple de l'Italie vous sied ? Et surtout, est-ce que vous vous dites que c'est effectivement le genre d'exemple qu'il faut donner pour expliquer comment ça peut se passer, c'est-à-dire sans heurts et sans drames ?
Je parle sous le contrôle de Vodan Mastor, qui a travaillé beaucoup là-dessus, avec André Fazi aussi. Il est évident que l'Italie, avec évidemment les autonomies qui viennent d'être évoquées, mais surtout ces îles, hein, la Sardaigne et la Sicile, mais en général les îles méditerranéennes, qu'elles fassent partie d'un État régional ou d'un État unitaire, ou les îles de l'arc atlantique, par exemple le Portugal est un État unitaire comme la France, très unitaire, très centraliste, et a mis une autonomie pour les Açores. Donc on voit bien qu'il y a des comparaisons qui peuvent être faites, comparaisons de vos raisons, mais quand même, sans remettre en cause l'unité, ça c'est très important de le dire, parce que l'article en question, l'écriture constitutionnelle en question a quand même des limites. Il y a les principes constitutionnellement garantis, les droits constitutionnellement garantis dans l'écriture, pour éviter de faire entre guillemets n'importe quoi, puisque le juge constitutionnel sera là pour dire son avis sur les lois. Et puis, il faut dire une chose dans ce cadre-là, c'est que nous sommes pour un transfert progressif de compétences, avec des évaluations. Donc il ne s'agit pas de partir à tout bout de champ, de donner des priorités par rapport à la vie quotidienne des Corses, comme l'a dit Vandam Astor. Et pour revenir à ce que disait la dame au départ, il ne s'agit pas d'avoir le beurre ou l'argent du beurre. c'est un exercice de responsabilité. Ouais. Nous voulons avoir la responsabilité, être responsable de ses actes, y compris de ses finances. Et quand on regarde la dynamique des impôts en Corse, je voudrais dire quand même que, par exemple, la TVA a doublé en 10 ans, du fait de la croissance démographique ou de l'attractivité touristique. L'impôt sur les sociétés a augmenté. Les Corses payent leurs impôts, et payent beaucoup leurs impôts, sauf qu'on est dans une croissance appauvrissante. À cause de la spéculation foncière immobilière, on a à la fois une croissance économique et d'impôts très forte, mais en même temps, on a une structure très inégalitaire de revenus, avec un Corse sur 5 sous le seuil de pauvreté, et un revenu médian de classe moyenne qui est 10 à 15% inférieur que le revenu médian français. Et ça, il faut résoudre cette équation par des règles adaptées. Or, malheureusement, les lois générales ne permettent pas de prendre en compte l'insularité, l'île-montagne, le surcoût d'insularité, les questions de lutte contre la spéculation au bon niveau pour résoudre cette équation où on évite d'avoir une île précaire en population, en même temps que d'avoir une attractivité énorme extérieure avec des gens qui, une minorité qui s'enrichissent, parce que c'est ça la réalité du terrain.
J'ai entendu Jean-Félix Acquaviva, merci beaucoup, député Liotte de Haute-Corse, je vais vous laisser à l'Assemblée.
Trop rapidement,
voilà.
Mais c'est pour la bonne cause.
Mais je vous en prie, je vais vous laisser à l'Assemblée de Corse où vous allez prendre la parole. En un mot, le vote à peu près quand, à votre avis ?
Ah, certainement dans trois quarts d'heure.
Ah ben voilà, donc on le saura vraiment très vite. Avant de retourner au standard, André Fazi, je voudrais revenir sur ce que nous disait Jean-Félix Acquaviva au début et notre auditeur sur la comparaison avec l'Italie. Il y a beaucoup de gens, en revanche, qui font aussi une comparaison, mais là, cette fois avec l'Espagne, en disant, mais dites-moi, l'Espagne ne s'est pas du tout apaisée avec ses autonomies, et c'est même exactement l'inverse qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on répond à ce genre d'argument ?
Je pense qu'ils sont tout à fait exagérés, que l'Espagne avait des nationalismes avant la constitution démocratique de 1978. Ces nationalismes sont toujours les mêmes. On n'a pas vu se développer un nationalisme castillan, un nationalisme extrémadurien, un nationalisme murcien.
Mais on a vu les Catalans quand même flancher beaucoup assez récemment.
Les Catalans et les Basques étaient nationalistes, ils le sont restés. Et je veux dire, ce sont justement les blocages de l'État central, du gouvernement central, je veux dire, qui ont motivé, qui ont favorisé un énorme boom indépendantiste à partir de l'année de 2011-2012. Je veux dire, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Il y a une, comment dire, ces demandes-là, elles gagnent à être traitées plus par l'écoute, par le respect, que par le rejet massif et brutal.
Partons en Haute-Corse, tiens, rejoindre Dominique. Bonsoir, Dominique.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir à vos invités. est-il besoin de faire une petite piqûre de rappel historique, à savoir que c'est Choiseul qui a fait les démarches pour que la Corse soit intégrée à la France, et on voit rarement en Corse des rues Choiseul. Enfin, je ne sais pas si les Corses vraiment désiraient vraiment devenir français. Mais ceci étant, par rapport à l'autonomie, encore une fois, est-il besoin de rappeler aussi que la décentralisation a été un échec? Alors, est-ce que les autres régions de France ne vont pas aussi demander un peu, quelque part, une autonomie pour si celle-ci a des côtés positifs, en quelque sorte, hein, si on peut bénéficier dans certaines régions de ce que la Corse pourra bénéficier?
Merci pour votre question, Dominique Vandamastor. Vous avez en partie répondu tout à l'heure, mais tout tient dans le vote en Corse, en fait, peut-être.
Bah, disons, pour rebondir sur ce que le monsieur vient de dire, il faut quand même vraiment bien assimiler le fait que la Corse est un territoire à part. Et je sais que parfois ça peut agacer des personnes qui ne connaissent pas vraiment la Corse, et parce que bon, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais je vais m'en tenir qu'au plan juridique, si vous voulez. C'est un territoire qui est à part, qui bénéficie depuis les lois de décentralisation dont il vient d'être question, donc depuis vraiment 1982, de spécificités sans cesse réaffirmées par tous les statuts spécifiques, et que cette présence-là, singulière et juridiquement, et anthropologiquement, ethnologiquement, géographiquement, historiquement, ça a été aussi rappelé par l'auditeur, font d'elle une catégorie à elle toute seule, si vous voulez. La Corse n'est comparable à aucun autre territoire en métropole. C'est une évidence. C'est la seule île non reliée par un pont. C'est ce qui fait que je pense qu'il faut réellement ne plus avoir peur. Je parle des Jacobins, dont je respecte les idéologies, bien sûr, de cet effet contagion. C'est pas parce que demain, l'étau va se desserrer un peu sur la Corse, qui par ailleurs l'a demandé démocratiquement, etc., que toutes les autres régions vont vouloir la même chose.
Mais est-ce qu'il peut y avoir un effet vertueux, à votre avis, Vandamastor? Parce qu'on peut aussi demander, effectivement, d'appuyer cette décentralisation, non pas de créer d'autres statuts, mais de donner à d'autres territoires au moins une possibilité d'adaptation de règles, sans que pour autant on en arrive, effectivement, à des autonomies. Donc il peut y avoir un effet vertueux, à votre avis, ou pas?
Mais absolument. Moi, je l'ai toujours dit, notamment, il y a déjà très longtemps, en assistant à un congrès de l'Association des régions de France, où j'ai entendu tous les présidents de régions se plaindre et s'adresser. Il y avait M. Larcher, M. Édouard Philippe devant eux, desserrer l'étau, ce sont nous les capitaines dans la tempête pendant le Covid. Donc si vous voulez, c'était quand même des revendications, donc de plus d'air, hein, pour être clair pour tous les auditeurs, pas seulement pour les territoires spécifiques comme la Corse ou d'autres en Outre-mer. C'est une évidence, la Corse peut être une sorte de figure de proue pour dire voilà, la chose est possible, on ne devient pas des affreux séparatistes, non, la Corse ne sort pas de la République. On a tout à l'heure cité l'Italie suite à la question de l'un de vos auditeurs. L'Italie, moi j'étais en Aoste et justement la semaine dernière pour faire une conférence sur l'autonomie de la Corse, l'Italie continue de proclamer dans sa constitution qu'elle est une et indivisible, en ajoutant tout de suite après, mais elle reconnaît l'autonomie en son sein des régions suivantes. Ce n'est pas incompatible, ce n'est absolument pas incompatible. Ça, il faut vraiment que les gens arrivent à comprendre ça. Ce n'est pas un danger.
Voilà, d'autant que c'est ce qu'ils entendront répéter, article 1er, article 2, article 3 de la Constitution, lorsque le débat, effectivement, viendra ici à Paris. On parle du statut de la Corse et de sa prochaine autonomie ou pas. Le vote aura lieu, le vote en Corse, en tout cas, aura lieu dans une petite demi-heure maintenant, avec Vandamastor, qui est constitutionnaliste, avec André Fazi, qui est maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Corse. Jean-Félix Acquaviva va nous acquitter, puisqu'il est peut-être en train de parler, d'ailleurs, presque au moment où on se parle, et nous sommes aussi avec Nicolas. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Vous êtes en Corse.
Oui.
Vous avez de la chance, on vous écoute.
Déjà, pour première chose, je suis pour l'autonomie, mais malgré tout, je me pose certaines questions. Depuis 2015, Simeone et sa bande sont à la tête de l'Assemblée de Corse, ils ont été incapables de résoudre le problème des déchets. Depuis donc presque 10 ans, est-ce que l'autonomie va leur permettre de résoudre ce problème par magie? Je ne pense pas. Et puis ensuite, le problème de la mafia. On a ce problème, c'est un petit problème en Corse au niveau de la mafia. Et ce problème, on le voit par exemple à Cavallo, où une parcelle d'un terrain qui a été préempté par l'Assemblée de Corse, qui n'a jamais encaissé de loyer.
Merci. Merci Nicolas. On revient toujours à ces sujets-là quand on est en Corse. André Fazi, mais ce que je trouve vraiment intéressant dans la question de Nicolas, c'est de se dire, attendez, est-ce que ce qui ne fonctionne pas chez nous pour l'instant fonctionnera mieux sous un autre statut et sous une autonomie, ou est-ce que ce sera finalement aussi compliqué que maintenant ? J'imagine que vous n'en savez rien, mais vous avez peut-être une idée.
Il ne peut y avoir rien de certain. Regardez, on a parlé de l'Italie. L'Italie, l'autonomie du Sud-Tirol qui a été évoquée est une énorme réussite. L'autonomie de la Sicile ne l'est pas du tout.
Ouais.
Je veux dire, ça dépendra de la capacité des élus corses et de la société corse en général à imaginer véritablement des politiques vertueuses et bénéfiques pour toute l'île. Ce que dit l'auditeur aussi est très intéressant. Au niveau des déchets, il faut quand même préciser que les déchets sont une compétence partagée. C'est-à-dire que la collecte est faite par les intercommunalités, que le CIVADEC s'occupe du traitement des déchets, que l'État autorise les infrastructures comme les décharges. Donc c'est une compétence partagée pour laquelle on ne peut pas rejeter en bloc la culpabilité sur la seule collectivité de Corse. D'ailleurs, c'est un problème qui existait déjà bien avant les mandatures nationalistes. Alors, bien évidemment, on regrette qu'il ne soit pas réglé totalement. Ce qu'on peut dire, c'est que cette capacité en théorie, à adapter la norme au plus près des ressources et des contraintes locales, en théorie, doit être un atout. Ensuite, nous restons sous le cadre, sous la coupe de la Constitution française, c'est-à-dire qu'une distorsion d'égalité, une atteinte à l'égalité, doit être strictement proportionnée à un objectif d'intérêt public et à une situation particulière, objectivement particulière.
On a une question de Audrey sur WhatsApp, Vandamastor, et qui dit ceci. Est-ce qu'il est également question d'autonomie financière de la Corse? C'est-à-dire, demande Audrey, fixation de ses propres impôts, autonomie de certaines dépenses sociales ou de toutes les dépenses sociales?
Oui, absolument. C'est ce qu'a répété d'ailleurs le député Acquavi tout à l'heure. C'est précisément l'un, si vous voulez, des objectifs phares d'une autonomie, on va dire, institutionnelle, pour quitter un peu le terrain du politique. C'est toujours l'autonomie fiscale, financière, bon, et poursuivre les revendications de la majorité territoriale et aussi en matière foncière. Mais ça, l'autonomie financière, elle peut être inscrite dans la Constitution. Comme elle peut ne pas l'être. D'ailleurs, souvent, on dit, s'il n'y a pas l'autonomie financière gravée dans la Constitution, on ne pourra pas l'avoir. Bon, c'est pas vrai, parce que l'autonomie fiscale n'apparaît pas dans l'article 74, par exemple, pour les collectifs d'outre-mer, et après, la loi organique est revenue dessus, sur ce point. Donc oui, c'est un peu ce qu'a expliqué tout à l'heure le député, avec du coup des exemples très chiffrés et très concrets de la vie du quotidien. C'est qu'il ne faut pas avoir l'autonomie fiscale comme on va faire n'importe quoi avec nos impôts. Bien sûr que non. La Corse ne sera que autonome, et encore, ça s'est pas encore fait d'ailleurs, au sein de la République française, avec sa constitution, ses cadres, ses garanties, ses carcans aussi, pour le versant plus sombre, on va dire, mais tout dépend évidemment des points de vue.
Et il y en aura forcément, de toute façon, c'est aussi comme ça que ça marche. André Fazi, une question d'Angie sur WhatsApp également. Qu'en est-il de la singularité des modes de fonctionnement des Antilles, de la Guyane, de la Réunion? N'ont-ils pas une plus grande légitimité à adapter la législation de leur territoire? Si les Corses obtiennent l'autonomie, cela faciliterait-il l'accès à une autonomie pour ces autres territoires?
Alors, a priori, oui, mais ces territoires, déjà depuis la révision de la Constitution de 2003, la loi organique de 2007, peuvent être habilités par le Parlement ou par le gouvernement à adapter des dispositions législatives ou réglementaires. Sauf que ce dispositif, qui est en gros celui qu'on propose aujourd'hui à la Corse, ce dispositif a donné des résultats insignifiants. On veut dire, sur 9 collectivités qui relèvent de l'article 73, donc conseil général, conseil départemental et régional de Guadeloupe, de Martinique, de Réunion, toutes ces collectivités-là, il y en a 9, et ben, il n'y en a que 4 qui ont demandé une habilitation, il n'y en a que 2 qui en ont eu une. C'est surtout les régions Martinique et Guadeloupe qui les ont utilisées pour des actions qu'on ne peut pas dire qu'elles changent le quotidien des gens. Je veux dire, créer une autorité unique des transports, bon, ça, a priori, ça peut être bien. Créer un établissement public sur la formation professionnelle, a priori, ça peut être bien, mais ce n'est pas ça véritablement que l'on attend d'une autonomie, je l'espère.
Jean-Jacques est avec nous. Bonsoir, Jean-Jacques.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci pour vos émissions, c'est toujours hyper intéressant, et voilà, c'était ça que je voulais aussi vous dire. Ma question, c'était, je voulais savoir par rapport à cette réforme, s'il ne serait pas bien de consulter par référendum les Français, parce que c'est quand même un sujet assez important, et plutôt que de se maintenir uniquement parlementaire, bon, pour lequel j'ai le plus grand respect, mais voilà, c'est quand même un sujet qui peut après avoir plein de conséquences et d'implications sur les autres régions. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Jacques, merci pour votre question Vandamastor, ça nous permet d'avancer sur le processus maintenant. Si on part du principe qu'il y a un vote tout à l'heure et qu'il est positif, qu'est-ce qui se passe derrière, immédiatement derrière ?
Immédiatement derrière, déjà, le calendrier n'est pas si certain, parce qu'il y a d'autres sujets qui sont considérés comme plus urgents, dont la Nouvelle-Calédonie. Par rapport au calendrier, après, comment sera bouclé ce soir, je l'espère, mais enfin, on s'y achemine quand même, le premier acte, qui était le processus politique. Donc, dès demain, s'ouvre le second acte, qui est le processus parlementaire, avec l'inscription de cet article à l'ordre du jour de ce qui devrait être le Congrès, c'est-à-dire Assemblée nationale.
Mais attendez, parce que notre éditeur nous parlait de référendum.
Oui, je vais y venir.
Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord un référendum? Je croyais qu'il y avait d'abord le référendum corse, en fait. Non? C'est après?
Non.
Ah bon, pardon.
Alors, bon, oui. Déjà, ça, c'est un petit peu flou, j'avoue, même dans l'actuel projet. Okay. En fait, déjà, ce référendum, parce que la dame a parlé, ou le monsieur, pardonnez-moi, d'un référendum des Français.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, le référendum ne serait qu'un référendum dit local, entre guillemets. Ouais. Voilà, où seuls les inscrits pour les élections territoriales corse seraient consultés.
Okay.
Donc, ce serait un référendum, si vous voulez, qui n'est pas obligatoire, dont dont l'issue n'implique pas forcément des choses normatives. Il y a un petit flou autour du moment, parce que manifestement, le référendum aurait lieu entre la révision constitutionnelle et l'adoption de la loi organique. Mais ça, c'est encore indéterminé, honnêtement. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, parce que c'est inscrit dans l'article qui est en train d'être discuté en ce moment à l'Assemblée de Corse, c'est que les électeurs corses seront appelés à se prononcer sur le statut. Mais je ne sais pas selon quel calendrier et surtout précisément sur quoi. Est-ce que c'est sur l'article de la Constitution, est-ce que c'est ce qui va en découler après le Congrès, ou est-ce que c'est après la loi organique?
Voilà, effectivement, il y a des chances, pardon de le dire comme ça, André Fazi, mais bien sûr que ce texte peut être largement modifié à son passage devant le Congrès, on est d'accord?
Bien évidemment. Et puis le président pourrait choisir de le soumettre au référendum de tous les Français, parce que normalement, la Constitution prévoit que la procédure normale de révision de la Constitution, c'est le référendum, sauf que ça n'a été utilisé qu'en 2000 par Jacques Chirac, avec une participation rachitique de 33% environ. Donc le président pourrait tout à fait le soumettre à tous les Français, sauf que la France, la République française, est plutôt rétive au référendum, peut-être parce qu'elle enlève trop de pouvoir aux élus.
Il y a Sébastien qui nous écoute et qui revient sur une question qu'on a un peu abordée, mais je trouve ça intéressant que ce soit ça spontanément qui vienne à l'esprit des auditeurs. Il nous dit ceci: la Corse est un territoire exceptionnel qui concentre la question sur l'autonomie des territoires. L'avancée actuelle pour la Corse me fait penser aux besoins similaires dans tous les autres territoires, c'est-à-dire, dit-il, la décentralisation, comment redonner la parole et le pouvoir au local sous surveillance globale nécessaire, dit-il avec un point d'interrogation, démocratie participative du local au global, nous dit-il. Et c'est vrai que le prolongement de cette conversation, je m'adresse à vous deux, Vanda Mastor, le prolongement de cette conversation partout sur le territoire, qu'on parle d'autonomie ou pas, c'est effectivement celui-là, et peut-être que le premier à engager cette conversation, en tout cas celui qui l'engage de manière extrêmement forte, c'est la Corse.
Ah oui, je trouve que cet auditeur a parfaitement résumé la chose en un écrit. C'est exactement ça, si vous voulez. En fait, énormément d'élus, pas seulement en Corse, réclament moins de verticalité de la part de l'État. Et le grand problème de la République française, André Fass vient de le dire, on n'a pas la culture du référendum parce que on est définitivement un régime représentatif dans les veines quand même duquel coule beaucoup l'ancien régime encore. Et donc, si vous voulez, ce besoin de moins de verticalité, on a l'impression qu'on a en face une sorte d'argument culturel, mais tellement enraciné, qui confond uniformité de la République et indivisibilité, qui est le jacobinisme. Et le jacobinisme avait un grand sens, je pèse mes mots, à l'été 1789, il fallait centraliser, il fallait supprimer les patois pour supprimer les castes, pour reprendre évidemment le fabuleux discours de l'abbé Grégoire. Mais nous sommes en 2024, les choses ont changé et très honnêtement, il n'y a pas que la Corse. La Corse se fait entendre plus, on l'écoute un peu plus, premièrement parce qu'elle est très belle et que, comme l'a répété le député Acquavive, on a presque 40% de maisons secondaires, donc la parole se propage aussi après sur le continent. Et puis deuxièmement, parce que nous avons un peu cette culture des statuts spécifiques que nous avons réellement eus. Mais honnêtement, je pense que globalement, énormément de régions, et pas seulement, on parle souvent de l'outre-mer, dans notre giron, entre guillemets, du Pays Basque, de la Bretagne, toutes les régions demandent tout simplement plus d'oxygène, moins de verticalité dans le pouvoir, dans la gouvernance des territoires. C'est une question aussi de dialogue entre l'État central et ses territoires. Il faut être à l'écoute, il faut plus respecter. André Fatz parlait tout à l'heure du cas espagnol. C'est ça, à un moment donné, les revendications qui ne sont jamais entendues, et surtout les dialogues qui ne sont pas faits de manière saine parce qu'ils sont trop verticaux et pas horizontaux, à un moment donné, ça fait exploser les revendications. Il ne faut pas arriver à ça, il ne faut jamais arriver à cela.
Bonsoir Jean-Christophe.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir. Une des beautés de la Corse que j'aime visiter, c'est son littoral qui est magnifiquement préservé. Alors je me demande si la dite adaptation des lois de la République localement ne va pas entraîner, à la faveur d'une alternance politique locale, une bétonisation des côtes.
Merci beaucoup Jean-Christophe. André Fazi, j'ai envie de dire au contraire, mais peut-être que je me trompe en fait.
Écoutez, on ne peut jamais jurer de rien. Moi, je ne suis pas si d'accord avec monsieur. Je trouve que les constructions en zone littorale se sont beaucoup développées, du moins sur certaines parties de la Corse, depuis 20 ans. La Corse est passée de 260 000 habitants en 1999 à presque 360 000 aujourd'hui. Donc, on imagine que ça suppose des constructions de logements. Si on ajoute le gain que peut représenter les locations privées touristiques, on comprend l'attrait de la terre corse. Ce qu'on a beaucoup discuté dans ce processus sur l'autonomie, c'est la question d'interdire le moins de 10 ans environnemental et le moins de 10 ans social. Et je pense que c'est un principe auquel on peut se tenir. Je peux rappeler que dans le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse qui a été voté en 2015 sous une majorité de gauche avec les voix nationalistes, on a plutôt durci un petit peu les conditions d'application de la loi littorale et de la loi montagne. Je ne crois pas que les Corses, les élus corses, soient disposés à saccager leur environnement. Ce qui est vrai, c'est que des pressions existent, elles existent d'ailleurs au niveau national, les maires s'en plaignent au niveau national, des pressions existent pour construire plus, et là, l'État a tout son rôle à jouer. Je veux dire qu'il se concentre sur ses fonctions régaliennes de police et de justice me paraît absolument indispensable.
Il nous reste un peu plus de 30 secondes, une quarantaine, Vanda Mastor, et avec cette dernière question, est-ce que ça a une importance cruciale, est-ce que ça a du sens d'imaginer dans la Constitution un titre spécifique consacré à la Corse plutôt qu'un article dans la Constitution? Est-ce que c'est de la dentelle ça, ou est-ce que ça compte vraiment?
Alors, moi j'ai toujours été favorable, donc je vais pas maintenant me déjuger pour deux raisons. Premièrement parce que c'est plus... je vais juste m'en arrêter au point, à l'argument juridique si vous voulez. J'ai dit tout à l'heure que la Corse était comparable à aucun autre territoire en métropole. Et comme elle est l'unique élément de sa propre catégorie, mieux vaut l'isoler dans un titre parce que précisément elle n'est comparable à aucun autre, premièrement. Et deuxième argument, ça sera encore pour contrecarrer l'argument peur de l'effet de contagion, si on met la Corse autonome dans le même titre à côté des autres articles relatifs aux autres collectivités territoriales, effectivement on pourrait dire, mais puisque la Corse a ça, pourquoi pas les autres? Alors que si on l'isole dans un titre spécifique, premièrement ça répond à une logique de cohérence parce qu'encore une fois, elle serait le seul élément de sa propre catégorie, et secondement, ça permettrait peut-être de rassurer les craintifs de l'explosion de la République en plein de communautés séparatistes qui voudraient demain leur autonomie, voire l'indépendance.
Ben voilà, ce sera la phrase de conclusion. Je vous remercie chaleureusement tous les deux, bien sûr, d'avoir été avec nous pour Téléphone Sonne. Merci à tous pour vos nombreuses questions.